Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invitée de cet après-midi s'appelle
Jeanne Sautière.
Il y a une dizaine d'années, elle publiait Fragmentation d'un lieu commun aux éditions Verticales, dans lequel elle parvenait à rendre vivantes des présences de part et d'autre du mur de prison. Avec elle, c'est une première étape dans une semaine entièrement construite autour du mot « le mur » et ça commence. Forcément, on a dû compter ici ou là des débordements fâcheux, quelques-uns pour taper sur quelques autres et quelques-uns pour se taper la tête à coups d'alcool fort et cachets banalisés. N'empêche, deux événements que l'on dit populaires ont mis les gens dehors ce week-end, à l'air libre, dans la ville. Match de foot et fête de la musique ont fait que l'espace public s'est retrouvé comme naturellement récupéré par celles et ceux qui ne font que le traverser à toute vitesse le reste du temps. Et mieux, chacun pourra en faire le récit, nous nous sommes touchés, nous avons esquissé quelques bons pas de danse, nous avons chanté un hymne pas vraiment national, nous avons sué, nous avons fait du bruit, mis des lumières, accroché des couleurs et nous nous sommes demandé où se tenait caché tout ça le reste du temps. Il est 16h passé de 1 minute, vous écoutez France Culture et c'est pas la peine de crier. Vers 16h13, sur le Polaroid du jour, apparaissent des femmes qui décapsulent des bières à la dent. Vers 16h20, le premier moment d'une semaine construite autour du mot « mur ». La première étape de cette semaine se situe de part et d'autre d'un mur, celui qui emprisonne, en prise avec les paroles. Jeanne Sautière publiait il y a un peu plus de 10 ans un livre né de son expérience d'éducatrice pénitentiaire et elle est notre invitée. Vers 16h50, nous entendrons un poème de Pier Paolo Pasolini et ce sera le cas toute cette semaine, avant à 17h de retrouver les équipes du 5 à 7. Le lundi, c'est aussi l'occasion de débuter un nouveau déballage de bibliothèque. C'est le comédien Stanislas Nordet qui choisit 5 textes desquels il se sent proche et nous en lit un extrait chaque jour. Il choisit pour commencer de lire un extrait de L'homme sans postérité d'Adalbert Stifter. On l'écoute.
Et le monde devenait plus grand, plus lumineux. Ces milliers de créatures dans l'allégresse étaient partout. Victor, cependant, allait de montagne en montagne et de vallée en vallée, son grand chagrin d'enfant dans le cœur, les yeux pleins de fraîcheur et d'étonnement. Chacune de ces journées qu'il éloignait de chez lui le rendait plus ferme et plus vaillant. Le vide formidable de l'air frôlait ses boucles châtaines, les blancs nuages, luisants comme la neige, s'élevaient dans le ciel, exactement comme au-dessus de sa vallée maternelle. Ses belles joues étaient déjà hâlées, le havresac sur le dos, il avançait, son bâton à la main. Le seul être vivant qui le rattacha désormais à sa terre natale était le vieux Spitz, qui courait à ses côtés, terriblement amaigri. Le troisième jour après son départ, le chien l'avait rattrapé. Il ne savait ni comment, ni pourquoi. Victor, de très bonne heure le matin, montait dans la fraîcheur un chemin de campagne large et humide. Il traversait une forêt lorsque, s'arrêtant pour regarder autour de lui, comme il faisait souvent pour se délecter du scintillement des branches de sapin humide, il remarqua quelque chose qui bougeait et semblait même se précipiter à sa rencontre. Mais quel ne fut pas son étonnement lorsque la boule noire, d'abord aperçue, après s'être rapprochée, se mit à bondir contre lui et se révéla être le vieux et fidèle griffon de sa mère nourricière. Mais dans quel état ? Il avait les poils tout encollés de boue et salis jusqu'à la peau par la poussière blanche du chemin. Ses yeux étaient rouges et enflammés. Voulant aboyer de joie, il n'y parvenait pas, sa voix était toute enrouée. Et comme il essayait au moins de bondir, il trébucha de l'arrière-train et tomba dans le fossé. « Mon pauvre vieux Spitz, » fit Victor, en s'accroupissant à côté de lui, « te rends-tu compte, ma vieille carcasse, de la folie que tu viens de faire ?» Mais à ces mots, le griffon remua la queue, comme s'il venait de recevoir les plus grands compliments. La première chose que fit Victor fut de l'essuyer avec un bout de chiffon pour lui rendre meilleure allure. Puis il prit 2 pains qu'il avait mis dans son sac le matin même pour le cas où il rencontrerait un mendiant, s'assit sur une pierre et se mit à les jeter à Spitz morceau par morceau. Le chien les happait d'un coup, affamé qu'il était, et il resta encore longtemps les yeux fixés sur les mains du jeune homme, mais elles étaient vides à présent. « Maintenant je n'ai plus rien, » fit Victor. « Mais à la première ferme venue, nous achèterons une jarre de lait pour toi tout seul. » Le griffon parut tranquillisé, comme s'il avait compris.
Stanislas Nordès est un extrait de « L'homme sans postérité » d'Adalbert Stifter. Quel est votre lien avec ce texte-là ou avec ce passage dans ce texte-là?
J'ai découvert Stifter parce que Handke, Peter Handke, le cite dans Les gens déraisonnables sont en voie de disparition, qui est une de ses pièces. Il y a un des personnages qui, à un moment donné, lit l'homme sans postérité. Et étant le premier, je dirais, l'idole de mon adolescence, c'était Peter Handke. J'ai tout lu Handke à l'adolescence. Et Handke m'a fait arriver à Stifter. C'est-à-dire, j'aime ces auteurs qui vous ouvrent une porte, qui en ouvrent une autre, qui en ouvrent une autre. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Après, j'ai lu tout Stifter, mais c'est l'homme sans postérité qui reste le plus vivant et vivace à mon cœur et à mon esprit, parce qu'il raconte cette traversée de la forêt de ce jeune homme. C'est un roman d'apprentissage. Et ce passage-là, entre le jeune homme et son vieux chien qui est au bord de la mort, et ce jeune homme qui, lui, va vers le début de sa vie. Voilà, il y a quelque chose sur la transmission entre le vieux chien et le jeune homme que je trouve assez bouleversant.
Quand des auteurs ouvrent des portes vers d'autres auteurs, vous les suivez avec appétit toujours, avec délai parfois? Comment ça se passe en termes de temporalité?
Je suis plutôt vorace, hein. Donc quand quelque chose s'ouvre, je m'engouffre en général. Donc je ne suis pas du tout prudent, j'aime ça, j'aime pouvoir... je ne sais pas, Maurice Blanchot m'a mené à Jean-Luc Nancy, Pasolini m'a mené à Mandelstam. Il y a comme ça chez moi un désir d'avancer vers des territoires vers lesquels je n'aurais jamais été, simplement parce que j'ai un ami écrivain qui de loin comme ça me tend la main et me montre une direction à prendre, et j'aime prendre cette direction-là.
Quand vous dites « j'ai lu tout Peter Handke adolescent », ça peut laisser certains d'entre nous un peu surpris, parce que tous les adolescents ne lisent pas tout Peter Handke. Comment ça vous tombe dans les mains ?
Handke, ça me tombe dans les mains, je pense, parce que vous savez, quand c'est les petits folios pas gros, j'ai dû lire, je sais pas, Le Malheur indifférent, ça doit être le premier que j'ai lu. Donc c'était le début de mes lectures, donc je cherchais les en philo. Le premier truc que j'ai lu, c'était l'Antéchrist de Nietzsche, parce que c'était le truc le plus voilà, le où il y avait le moins de pages. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai fait Bibliothèque rose, Bibliothèque verte, etc. Et puis les premiers livres vraiment importants adultes, ça a été Handke, mais certainement par ce hasard. Je vais dans la librairie, je choisis un livre pour adultes qui n'est pas trop gros, et il se trouve que je suis tombé sur Handke et que ça a été que ça m'a ouvert toutes les autres portes après, je pense.
Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir, presque comme image de ces lectures adolescentes? Ça ouvre quoi comme monde pour vous à ce moment-là?
C'est très inquiétant. C'est ça le souvenir que j'en ai. C'est-à-dire que c'est très inquiétant parce qu'une fois qu'on découvre que c'est possible, ça, que Handke, c'est possible, puis que, je sais pas, Joyce, c'est possible. Il y a quelque chose de l'ordre de l'infini qui s'ouvre devant vous et qui est assez terrifiant. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, quand je vais dans les librairies, de plus en plus, j'ai une espèce de sentiment de vertige devant tout ce qui est publié, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses de publiées qu'il y a parfois même une forme, de ma part, de découragement. Je voudrais pouvoir tout lire, en fait.
Donc, mais tout n'ouvre pas sur l'infini.
Non, mais en même temps, j'aime bien les lectures déceptives aussi. Je trouve que c'est toujours intéressant. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé aussi me heurter à un mur, c'est-à-dire à aller avec énormément de joie vers quelque chose dont on m'a parlé, ou même vers lequel un auteur m'a emmené. Et puis, j'aime aussi le sentiment de la déception. Je laisse jamais tomber un livre en cours, je vais au bout, je consomme la déception. C'est-à-dire que pour moi, le pari de la littérature engendre forcément aussi la possibilité de l'échec, de l'impossibilité d'accéder à telle forme d'écriture, alors qu'on aimerait bien, mais on n'y arrive pas. Voilà, c'est-à-dire pour moi, une belle lecture n'est pas forcément une lecture qui me comble.
Quelle musique vous voulez associer à ce texte ?
By Myself de Judy Garland, ça peut être pas mal.
I'll go my way by myself. This is the end of romance. I'll go my way by myself. Love is only a dance. I'll try to apply myself and teach my heart how to sing. I'll go my way by myself, like a bird on the wing. I'll face the unknown. I'll build a world of my own. No one knows better than I myself. I'm by the comedy ends. I'll have to deny myself love and laughter and friends. Gray clouds in the sky above on my fun. I'll try to fly high above for my place in the
Demain, Stanislas Nordet poursuit ses lectures et il vous fera entendre un extrait de Coup de pompe de Raymond Federman, une liste que compte ce livre, c'est une liste de culs et c'est très beau. En attendant, faites descendre vos yeux dans vos oreilles et faites apparaître l'image, c'est le Polaroid. Avec l'œil défiant du lézard, elle empêche les voitures de passer. Elle se met dos à elle, les fait s'arrêter et elle danse. Elle tape une cuillère sur une autre en agitant prestement ses fesses au nez de celui ou celle qui conduit. C'est jouissif à voir. Le regard de celui ou celle qui conduit. C'est jouissif à regarder ce moment dont on ne sait combien exactement de temps il peut durer. Et qui finira par trancher la question ? Qui va dire combien ça dure ? La bienséance ? La lassitude de la danseuse ? La lassitude de celui ou celle qui conduit ? Ou la fin de la musique ? Sur le côté, juste à la sortie du bar, une petite dizaine d'hommes jouent depuis des heures. Une chanteuse et un chanteur se relaient dans cette course de fond, parfois récompensée par des billets collés à même la sueur, sur le front. Les billets sont tournés autour du crâne, avant d'être glissés dans la chemise ou dans le soutien-gorge. Ils serviront pour une part à payer des coups à tous les autres, et les capsules, on les fera sauter avec les dents. L'autre part, il se peut qu'elles servent, elles, à compléter un loyer. Le trottoir d'en face accueille une ribambelle de tables, sur lesquelles gisent désormais des ruines de dîners et des ruines de bouteilles. Les vieux y observent la scène de la danse d'un peu loin. Les plus jeunes, tous habillés très près du corps, se lèvent bientôt pour rejoindre ce que la rue a aménagé de pistes et vont esquisser des pas de danse bien sentis, avant que les musiciens n'abdiquent devant un disque jockey qui les fera sortir de leur gond. Les vieilles, elles vont continuer de décapsuler des cronambours à la dent, et quelque chose de la ville aura durablement bougé à ce croisement de rue.
Hey, don't you ask a touch of the sun,
Pour ce Polaroid, Miss Chanel vous faisait entendre le titre Mansa Haru de Mamar Kassé. J'en ai parlé brièvement la semaine dernière. Extension Sauvage est le nom d'un festival imaginé par Figure Project, l'association de la chorégraphe Latifa Labissi. Ce festival commence ce vendredi et entre autres, principalement, on y dansera. Le programme se trouve sur extensionsauvage.com. Et Extension Sauvage, c'est aussi, il me semble, un terme qu'emploie le psychiatre Jean Houry et l'auteur Marie de Pucé dans leur conversation sur la folie, paru sous le titre « À quelle heure passe le train ?», un incroyable dialogue publié aux éditions Calmann-Lévy, dont je conseille au passage vivement la lecture. Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, c'est la deuxième partie de notre émission, il est 16h passé de 20 minutes et le premier moment d'une semaine que nous consacrons aux murs. Les murs solides parce que bâtis solidement et les autres murs tout aussi solides parce que très intériorisés. Le défi d'aujourd'hui est la possibilité d'une présence, d'une langue, de part et d'autre du mur de prison. En questionnant en profondeur l'enfermement et le système pénitentiaire, les années 70 ont créé des vocations. Certains en sont revenus et d'une certaine manière, d'autres pas, à tous les sens du terme. Peut-être la prison, quelle que soit la qualité en laquelle on la pénètre, colle ensuite au basque pour longtemps. Au désert, tout est relief, au silence plat, tout est rythme. Le livre dont il est question aujourd'hui énumère, et les numéros, loin de gommer les individus qu'ils abritent, fait d'eux le rythme, le vrai battement, le vrai bruit, la vraie parole. À lire ce livre et l'usure surmontée à chaque page pour continuer de passer le mur, on se dit qu'il faudrait surtout pouvoir passer le relais, passer la main, pouvoir partager l'épuisement. Cela ne fait que renouveler aussi la question de l'enfermement, de ses conditions et l'idée que l'on pourrait peut-être enfin passer à autre chose. Jeanne Sautière, vous êtes donc écrivain. Vous fûtes éducatrice pénitentiaire pendant plus de 20 ans. Vous avez publié plusieurs livres, dont le premier, Fragmentation d'un lieu commun. C'était en 2003 aux éditions Verticales dans la collection Minimale. Bonjour et bienvenue.
Bonjour à vous.
Ce livre se termine sur les mots « ce qui doit être dit ». À partir de quand vous avez considéré qu'il était possible de dire de cette manière-là une partie de ce que vous viviez en tant qu'éducatrice pénitentiaire ?
Je pense que c'est arrivé tout simplement à un moment où je quittais ce métier pour exercer d'autres fonctions et que dans ce qui a suivi, cette espèce de manque et de séparation avec les gens que je voyais, les mots se sont installés à ce moment-là et j'ai commencé à noter quelques petites choses et quand j'ai vu que je me suis rendu compte que ça tenait, que l'écriture tenait bon, j'ai ouvert ce chantier en me disant je vais mettre 100 fragments parfaitement dans le fil dans lequel ils vont s'avancer vers moi de ce que j'ai vécu et j'ai pensé faire un livre de cette façon-là.
Quand vous dites que c'est arrivé à un moment donné où justement vous preniez un peu de distance, distance qui existe déjà pendant l'exercice du métier, est-ce que ce livre est une façon de se séparer d'un monde ou est-ce que c'est une façon de le garder très proche de vous ?
C'est sûrement pas une séparation. Oui, le garder proche, peut-être dans une autre configuration que celle dans laquelle ces souvenirs ou cette collection de souvenirs aurait été si je n'avais pas écrit puisque l'écriture a dépétrifié le réel, elle l'a innervé, elle l'a re-rendu vivant. En fait, c'est un surcroît de vie, je pense, par rapport à cette vie professionnelle que le livre a constitué.
Est-ce que on peut dire que vous vous en êtes méfié de ce livre-là ? À plusieurs moments dans le livre, on sent qu'il y a à la fois quelque chose qui vient par le langage, comme vous dites, l'écriture tient bon et on vous sent presque ému de voir à quel point l'écriture tient bon dans vos pages. En même temps, à toutes les pages, on sent aussi que vous vous méfiez de cette écriture et de ce que le langage, à la fois ces prisons, à la fois ces grandes prairies bien sympathiques, pourrait faire du réel dont vous traitez.
Mais c'est très juste. Je pense qu'à tout moment, j'ai eu une espèce d'épée de Damoclès qui était ce que je ne voulais pas faire. Ce que je ne voulais pas faire, c'était de l'ordre d'un témoignage supplémentaire, d'un livre militant supplémentaire, de quelque chose d'ordonné par une pensée construite, par quelque chose qui aurait été pour moi, je me trompe peut-être, mais hors du champ littéraire, parce que finalement, la littérature était l'espace de liberté absolue dont je pouvais bénéficier, dans laquelle tout pouvait s'écrire, tandis que si j'avais été gouvernée par une forme d'idéal, quelle que soit sa valeur, et je ne la dénie pas, je suis aussi une militante à nombreuses occasions de ma vie, en tout cas je l'ai été, eh bien ça n'aurait plus été ce que je souhaitais faire. Et je pense que la littérature seule me permettait de donner à toutes les personnes qui sont dans ce livre, parce que c'est un livre où il y a beaucoup de monde hein, finalement, de leur redonner quelque chose au plus près d'elles, au plus juste, au plus respectueux finalement d'elles.
J'ai dit que vous avez été éducatrice pénitentiaire pendant plus de 20 ans dans différents établissements pénitentiaires, différentes prisons en France. Que recouvre ce terme? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire au quotidien?
Alors déjà, c'est une profession qui n'existe plus, puisque maintenant, les personnes qui occupent cette fonction s'appellent les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. C'est une dénomination moins généraliste, disons, plus spécialisée, et peut-être plus axée sur la question de la peine, de la sanction pénale. À mon époque, si vous voulez, on était quand même extrêmement dans la mouvance de ce qui s'était passé dans les années 70, c'est-à-dire des textes de Foucault, du GIP, de tous ces mouvements-là.
Groupe d'information prison.
Ou groupe d'information prison, qui revenait précisément à aller voir ce qui se passait dans les prisons et à essayer d'introduire un changement. Je veux dire, on était une profession prise dans cette dynamique-là et qui en a d'ailleurs payé le prix, puisqu'il y a eu quelquefois beaucoup de difficultés pour mes collègues à exercer leur travail en milieu pénitentiaire. Je pense que c'est plus du tout le cas maintenant. C'est-à-dire que mes collègues actuels ont véritablement leur place et leur capacité d'exercer, mais d'exercer quelque chose qui est vraiment bordé pour moi d'une autre façon. Ce que je regrette, c'est peut-être que tout l'espace relationnel, un peu informel, un peu hors cadre, qui existait à cette époque, se soit professionnalisé au point de réduire peut-être le champ de la relation qui reste pour moi complètement fondamental dans cette fonction.
On entend hors cadre, mais c'est aussi hors les murs et mis à part la bonne formule que ça nous permet par rapport à la thématique de notre semaine. Dans ce livre-là, on sent que vous en franchissez. Évidemment, il y a l'entrée et la sortie de la prison, le part et d'autre des murs, mais aussi on vous retrouve dans des salons de famille à annoncer que tel crime a été commis. On vous retrouve vraiment dans des endroits où on a l'impression qu'il n'y a précisément pas de borne à ce métier-là. C'est-à-dire que vous pouviez aller, entre guillemets, partout.
C'est parce que il y a deux terrains d'exercice dans ce livre, qui c'est toujours d'ailleurs le cas. Il y a celui en prison où effectivement il était assez rare que j'aille hors de la prison. Quelquefois pour rencontrer des familles quand il y avait nécessité de le faire. Une fois dans le livre je raconte que j'ai amené une petite fille à un parloir, enfin bon. Et puis, il y avait ce qu'on appelait à l'époque les comités de probation, c'est-à-dire où on suivait des gens à l'extérieur, des gens qui ne sont pas détenus. Soit ils sortent de détention, soit ils ont des peines qu'on appelle alternatives à l'incarcération. Et ils étaient suivis à ce titre-là. Et dans ce cadre, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de visites à domicile, il y avait beaucoup de rencontres à l'extérieur, il y avait pas mal d'accompagnement, bon, ce qui permettait effectivement d'aller dans des endroits où peut-être peu de monde vont.
Puisqu'on entend éducatrice dans la façon de qualifier, en tout cas à l'époque, ce métier, de quelle éducation s'agit-il?
Ça, c'est indéfinissable. Je pense que le terme générique était lié au fait qu'à l'époque, il y avait un grand champ d'éducateurs, éducateurs spécialisés, etc. Et qu'on a été raccrochés à cette dimension-là dans l'histoire de l'administration pénitentiaire. Et puis, au fur et à mesure du temps, c'est vrai que les choses ont évolué vers un concept plus flou, peut-être, mais plus global, de travailleur social. C'est-à-dire quelque chose qui rassemblait les éducateurs et les assistantes sociales. pour ensuite avancer encore vers un autre type de définition. Éducation, c'était pas toujours un mot qui était bien reçu par les gens que je voyais.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est comme ça qu'on vous appelait ?
Alors, on nous appelait et on se présentait comme ça, effectivement.
Et les détenus aussi vous appelaient comme ça ?
Oui. Oui, oui, ils nous appelaient comme ça. On était à l'époque une profession jeune et on était un peu en rupture avec le vieux système du service social de la prison qui était beaucoup plus tourné vers la prise en charge familiale, enfin des choses un peu plus classiques. Et du coup, on était à la fois ressentis comme une espèce d'échappée, d'alternative à quelque chose qui n'était peut-être plus très, très adapté. Et en même temps, je sais qu'il y a des personnes que le mot éducation cabrait un peu, parce que c'était probablement leur renvoyer que de l'éducation, elles n'en avaient pas. Alors que nous, on n'était évidemment pas dans cet état d'esprit, et on était bien là pour voir que de la culture, des références et des valeurs...
Il y en avait de part et d'autre.
Exactement.
Pour Ante Zemliar. C'était une petite fenêtre obstruée par une planche de bois. La seule arrivée d'air de la cellule. L'homme s'habitue à l'ombre. À midi, debout sur le lit de camp, il s'étire vers la fente de lumière. Moins qu'une ligne, un verre bref passe sur ses paupières de ses yeux. Il y a un nœud dans le bois qu'il touche. De l'ongle et du temps, de la pointe de l'ongle et du temps. Il faut un jeu à l'homme dans sa cellule. Un jour, le nœud cède, prié par l'ongle ami du temps, qui repousse chaque jour. Le nœud cède. Il se retire comme un bouchon de bouteille, et dans son col passe un jet de lumière lisse et droite, qui s'agrandit à terre, inonde le sol. Le prisonnier Ante se déchausse et y baigne ses pieds. Depuis un an, il ne sort plus de cellule, privé de cour et d'air, un an que la porte est pareille au mur, que la porte ne porte nulle part. Un an. Il cligne des yeux. Le soleil dans le trou est une orange ronde dans la main. Ante connaît les coups. Il sait qu'une droite laisse du sang sur le mur de gauche et vice-versa, et qu'un direct dans la figure laisse du sang par terre. Mais la nouveauté ici, c'est que les coups arrivent à laisser du sang sur le plafond. On apprend toujours sur les chemins du sang et des coups ingénieux des gendarmes. Ante garde le nœud, le remet dans le bois, le gardien ne saura pas, le soleil n'est pas un mouchard, il se glisse lestement et puis ne laisse pas de traces. Même s'il fouille, le gardien ne peut dire « Le soleil est venu d'ici, je sens son odeur. Le soleil n'est pas un rat. » Même s'il en vient beaucoup dans une cellule, nul ne voit qu'il manque un rayon dehors. Que sa conduite a un trou et qu'elle perd de la lumière par un nœud de bois. Encore quelques mois, puis le lui donneront, le soleil, en une seule fois sur le dos, pire que des coups de bastonnade sur l'île nue à casser des pierres. Le prisonnier Ante a conservé le nœud. Parfois loin du gardien, il le pointe face au soleil et se crée une ombre sur l'île nue à casser des pierres blanches et les jeter ensuite à la mer, dans l'Adriatique. Car la peine est pure, sans valeur pratique, et la mer ne se remplira pas.
Jeanne Sautière, on entend ici la quasi-totalité d'un poème pour Ante Zemliar, traduction Daniel Valin, et c'est signé Eri De Luca, avec une légère coupe dans le poème qui n'a pas fait entendre notamment un vers. Ses pieds se frottent entre eux, ce sont deux enfants, la première fois à la mer, et qui laisse voir l'ouverture que crée ce petit jeu fait avec le soleil. C'est vous qui avez soumis la lecture de ce texte, dans lequel on entend aussi, on apprend toujours sur les chemins du sang et des coups ingénieux des gendarmes. quel est l'apprentissage qui vous reste, qui vous colle le plus au basque, puisque je disais dans l'introduction que, a priori, de la prison, on ne s'en défaisait pas vraiment.
C'est difficile pour moi de tirer un seul fil, mais je pense que celui qui me vient peut-être immédiatement à l'esprit, c'est très en référence avec ce qui vient d'être lu, c'est la ténuité des choses auxquelles on peut s'accrocher. Je veux dire qu'il y a une vie de la survie. Et ça, on le lit dans ce texte-là, on le lit dans Primo Levi, lorsque les deux déportés traversent la cour du camp de concentration et qu'il essaye de retrouver les vers de Dante. Il y a quelque chose d'une ténuité comme ça qui s'insinue, quoi qu'il arrive, qui moi me bouleversera, je pense, toujours aussi. Et c'est peut-être ça, peut-être la plus forte leçon.
C'est une ténuité qui touche là encore à la fois les détenus, à la fois le corps éducatif dont vous faisiez partie.
Nous les hommes, tous, je pense que c'est ce qui nous réunit franchement profondément, parce que là, pour le coup, dans cette expérience-là, il n'est pas possible de cliver face à ce qu'on met en œuvre pour résister, pour vivre, pour supporter. Je pense qu'il y a une très profonde, très réelle égalité.
Parce qu'on parlait aussi en introduction d'une fatigue et d'une usure à surmonter. Évidemment, ce livre fait aussi entendre ça, fait aussi entendre l'usure et la fatigue et l'espèce de travail remis en permanence sur la table par ceux qui font ce métier-là, qui ressemble aussi à la porte qui se ferme tous les soirs sur le détenu qui dort dans la cellule. Alors, bien sûr, il y a une égalité, il y a une égalité qui est aussi toute relative. Il y en a qui sortent et il y en a d'autres qui ne sortent pas. Comment parler presque de ce supplément de vie paradoxal qui existe dans un établissement qui enferme.
Mais je crois que ce qui est extrêmement... Enfin, moi, ce que je trouvais très fort, c'était quand la porte de mon bureau s'ouvrait, mais que ce soit en prison ou dehors, que quelqu'un rentrait, ce qu'il allait me dire était extraordinairement précieux. Je pense que c'est ça qui m'attachait profondément à ce métier, c'était la parole des gens. Et c'est là que finalement les choses les plus essentielles se passent. C'est dans ce rapport de langage, ce rapport d'écoute. Bon, c'est un peu tarte à la crème ce que je suis en train de dire, mais en même temps, je pense qu'il y a il y a des séquences, des moments d'un échange qui est si exact, si juste. Même si les mots sont très brefs, les phrases sont très courtes, il y a des moments où il y a une telle confiance et une telle réciprocité dans la confiance que oui, voilà, on s'appuie les uns et les autres à ça.
Ce serait tarte à la crème si ces moments d'écoute étaient extrêmement répandus, s'ils étaient le lot quotidien de chacun des détenus, s'ils étaient le lot quotidien de chacun des gardiens, s'ils étaient le lot quotidien de chacun des directeurs de secteur. Mmh. Il ne semble pas que le lieu pénitentiaire soit précisément la panacée de la parole. Bien des études ont démontré le contraire et vous faites aussi état de nombreux silences. Est-ce que vous avez tout de même senti peser un silence sur ces lieux-là plus que circulation de la parole ?
Ah mais bien sûr, c'est ça qui est vaincu par la parole. C'est justement ce silence complètement écrasant. Ces silences, il faudrait dire, parce qu'il y a les silences qui sont le fait des règlements ou des choses de cet ordre qui interdisent un certain type de communication.
Par exemple, entre le gardien et le détenu.
Alors,
quand vous faites état de ça,
ah oui. Oui, il y a beaucoup de réserves. Des réserves qui sont aussi franchies parce que les surveillants, alors moi je les appelle les surveillants, ils veillent sur. Plutôt que
c'est,
garder.
C'est beaucoup mieux.
Et c'est vrai que bon, il y a aussi des échanges, mais il y a une grande réserve tout simplement parce qu'il y a la tenue. La tenue, c'est l'uniforme dans tous les sens de ce mot-là. Il y a ces silences, effectivement, ces choses qui ne se disent pas. Il y a aussi les silences imposés de certains détenus à d'autres détenus. Je me souviens d'un détenu qui avait dit, parce qu'ils avaient rencontré un auteur, je ne sais plus lequel, et puis un avait dit, mais ça, on ne peut pas le dire dans la cellule. Ça, on ne peut pas le dire dans la cellule. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se dire dans la cellule et qu'on peut dire à d'autres, qu'on peut dire dans une lettre, qu'on peut dire ailleurs. Mais la segmentation des choses, la première segmentation imposée, c'est justement ça, dans le registre du langage que ça se passe, me semble-t-il.
Mmh.
n'avons pas le droit de grève. Pourtant, j'avais un jour affiché un texte me revendiquant comme gréviste sur la porte de mon bureau, au tribunal. C'était une grève de femmes, un 8 mars, je ne sais plus bien quelle année. J'avais expliqué les raisons de mon geste. J'ai reçu beaucoup de visites, magistrats, chefs de service, justiciables. Il n'y a eu aucune suite disciplinaire. Pendant longtemps, j'en ai été fier, comme d'un triomphe de mon audace, de la surprise ou de la ruse, jusqu'au jour où j'ai fini par comprendre que tout le monde s'en fichait. Une grève de femme, ce n'est pas sérieux. Ça se traite comme une bouderie d'enfants. Lorsque j'ai lu L'enfant criminel de Genet, j'ai compris l'irrespect que subissent ceux dont les actes sont minorés.
Jeanne Sautière, on entend ici dans la voix de Cyril Baer un extrait de ces fragments. Il se trouve que j'ai choisi un fragment où il est question de vous. Et il n'est pas question des gens dont vous faites vivre la parole, mais d'une certaine manière, il est aussi question d'eux dans la façon dont ce texte est écrit, puisque le fait que vous soyez une femme revient dans ce livre à plein de moments et presque sous plein d'angles très différents. Est-ce que c'est aussi un livre qui dit ça, qui questionne ça, qui réfléchit ? Est-ce que c'est aussi le lieu pour vous de réfléchir à ça ?
Alors, je ne sais pas si j'ai un peu gonflé de dire ça, mais si j'ai beaucoup réfléchi en écrivant ce livre, j'ai laissé les choses vraiment...
Mais 10 ans sont passés maintenant.
10 ans sont passés. Alors, réfléchir, oui, parce que chaque fois qu'on montre quelque chose, on se permet d'y réfléchir. Ça, c'est très juste. Alors oui, réfléchir, et ça m'a montré aussi beaucoup de choses. Parce que le fait d'avoir un corps en prison, c'est complètement essentiel. Il y a le corps des détenus qui se marque par la prison, qui porte les traces, qui va garder... Vous savez, quelquefois, dehors, dans une boutique, je sens quand quelqu'un sort de prison, je le ressens à cause de son corps, à cause de sa façon d'être dans l'espace. Enfin, il y a des choses comme ça qui me marquent profondément. Mais on arrivait, nous aussi, avec notre corps de femme. Et à plusieurs moments, c'était tellement incroyable de nous voir là, enfin, pour eux, et puis presque même pour nous. Je me souviens par exemple, et je le dis aussi dans le livre, avoir vu une de mes collègues enceinte dans une des coursives, et tout d'un coup, voilà, c'était pas elle l'anomalie, c'était tout le reste autour. Elle avait réussi, avec son gros ventre, à renvoyer la prison à quelque chose de totalement incroyablement monstrueux, et qu'on n'aurait peut-être pas vu si elle s'était promenée, si elle n'était pas promenée ce jour-là dans la coursive. Oui, on avait un corps de femme, souvent, très souvent dans les échanges avec les détenus, c'était quelque chose de parfaitement respecté. Ça m'a beaucoup frappée, parce que la peur de tout le monde me disait « Ah, éducatrice en prison d'hommes, ça doit être quand même très difficile. » Non, 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 c'était pas difficile de ce point de vue-là. Quelquefois, il y avait le sentiment que le féminin était très profondément malmené. Il y a des phénomènes de groupe qui font que les détenus, les bandes d'hommes qui se lâchent comme ça brutalement, qui insultent.
Mais souvent de loin, vous racontez en effet, des corps de jeunes femmes passant, on voit très bien qui a franchi pour parfois des portes de prison. Mais dans cette allée qui est, par exemple, à Fleury-Mérogis, qui est sous les fenêtres, on peut entendre de grandes insultes. Ouais. En revanche, quand c'est un tête-à-tête ou des yeux dans les yeux, vous racontez que, par exemple, toute forme de photographie pornographique peuvent être ôtées des murs pour vous laisser entrer vous avec un vrai corps.
Exactement.
Ce qui est l'inverse de malmené.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à la fois, on est face à du féminin malmené, parce qu'il y a les infractions aussi. Il y a parfois des infractions très, très lourdes sur les femmes. Et il y a le rapport qui s'installe et qui fait du féminin quelque chose de complètement autre et une véritable altérité. Et du coup, ça, c'est quand même extraordinairement fort, quoi, de constater ça.
Et c'est une altérité aussi dont vous montrez qu'elle peut renvoyer à une autre altérité, c'est-à-dire la leur, et à l'existence de leur propre corps, puisque quand on parle des corps qui circulent en prison et quand on parle des corps qui sont ceux des détenus, on parle aussi de la négation des corps. Ce sont parfois des hommes ou des femmes qui ont nié le corps d'autrui dehors, en les tuant, en les malmenant, en les violant, et qui sont à leur tour d'une certaine manière niés. Et vous démontrez à quel point, par exemple, le fait qu'un homme dispose d'un sexe, le fait qu'un homme dispose d'un sexe érectile, c'est-à-dire le fait qu'un homme puisse désirer être vivant, quelque chose qui est gommé. De quelle manière est-ce que vous parveniez à déjouer ça tout en restant à votre place distante, à déjouer cette négation des corps?
Je pense que ça venait au moment où on se laissait parfaitement disponible, c'est-à-dire complètement libre de voir, de regarder, de quitter le formatage professionnel qui est nécessaire aussi. On n'est pas là comme ça, par gratuité. Mais quand on arrive à quitter la posture et qu'on se laisse comme du papier photographique, impressionné par quelque chose, du coup, oui, là, du coup, on voit, on ressent et on comprend un certain nombre de choses. Oui, oui, tout à fait. C'est plus ça la mécanique pour moi. C'est laisser le vide et la liberté du regard gagner. Oui.
Une mécanique du travail, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui portait ses fruits dans les échanges et dans les processus éducatifs?
Oui, et puis les gens sont très forts pour vous faire voir aussi des choses. Enfin, c'est nous qui n'acceptons pas quelquefois de voir et de comprendre. Mais il y a une force de la présence de l'autre quand même qui impose de voir autrement.
Quand vous avez dit tout à l'heure que vous avez commencé à écrire dans cette période qui succédait à l'arrêt de ce métier, vous avez évoqué l'idée d'un manque. C'était quel manque ?
Mais le manque de toutes ces rencontres, je crois. Ça, je le porte encore maintenant. Enfin, je veux dire que ça a été quelque chose de... C'est une véritable séparation. Hein. Quelque chose qui... Cette posture-là, c'était une posture conquise au travers d'une position professionnelle. Lorsque la profession disparaît, eh bien, le reste part aussi. Je n'aurai plus jamais cette place-là. Et c'est vrai que, oui, ça constitue un manque, oui.
Nous sommes là pour... vérifier que les gens qui sont en hôpital, qui sont en prison, qui sont en commissariat, qui sont en dépôt de tribunal, sont traités convenablement. Alors ça s'appelle des grands mots. On est là pour protéger les droits fondamentaux des personnes. Et les droits fondamentaux des personnes, pour moi, c'est pas des choses qui se mettent avec des lettres dorées sur le fronton des édifices publics. J'ai des choses très concrètes, pouvoir s'exprimer, pouvoir pratiquer une religion si on en a une, pouvoir recevoir du courrier sans qu'il soit confisqué au passage, pouvoir s'exprimer à peu près en calme. Voilà, c'est ça les droits fondamentaux, sans compter évidemment le fait de ne pas subir de violence, d'être traité sur le plan sanitaire comme il convient. Mais ce sont des choses extrêmement simples de la vie quotidienne. Et je ne voudrais pas qu'on solennise ces droits fondamentaux. Donc c'est ça que nous cherchons à faire lorsque nous visitons des établissements. Nous sommes astreints à visiter des établissements. C'est contrôler que toutes ces choses un peu simples que j'évoquais, mais essentielles, sont bien en œuvre. Pour que la détention, par exemple, ne soit pas plus que ce qu'elle n'est, c'est-à-dire la punition d'un emprisonnement. Pour que l'hôpital psychiatrique ne soit pas plus que ce qu'il n'est, des soins apportés à une personne qui reste une personne. Pour que les gens se comportent finalement comme on doit se comporter entre êtres humains.
C'est la voix, Jeanne Sautière, c'est la voix de Jean-Marie Delarue qui a été pendant 6 ans contrôleur général des lieux de privation de liberté. C'est un extrait des rushs du film À l'ombre de la République, un film de Stéphane Mercurio qui était sorti en salle le 7 mars 2012 où il est question des droits fondamentaux. Quand on entend Jean-Marie Delarue, quand on lit votre livre Fragmentation d'un lieu commun et d'autres ouvrages ou bien du même type, ou bien plus militant, plus politiquement, ou plus sociologique, tout simplement, de l'ordre de l'observation, on se dit que c'est une question de laquelle on ne devrait pas pouvoir être exclu en tant que citoyen. On se dit que c'est une question, la garantie des droits de chacun, de laquelle on ne devrait pas pouvoir être exclu. À savoir, on se dit, comment ça se fait qu'il n'y a qu'une petite poignée de personnes qui, entre guillemets, s'épuisent pour que la garantie de cette dignité soit possible. Est-ce que c'est quelque chose qui vous animait pendant 25 ans à faire ce métier, à savoir qui prend le relais, qui est avec nous? Est-ce que c'était une question qui était à l'œuvre pour vous?
C'était à ce point à l'œuvre que j'ai ensuite rejoint l'équipe de Jean-Marie Delarue. J'aime beaucoup ce qu'il vient de dire là. Parce que effectivement, je pense que ce qui doit faire référence, le problème qui m'a toujours saisie, moi, c'était le moment où effectivement le principe est détaché de son acte, de l'acte qu'il doit générer. Et ça, on le voit quand même de temps en temps. Et aussi, les travailleurs sociaux commettent aussi des choses de cet ordre. Hein. Ils n'en sont pas du tout exclus. Il n'y a pas les méchants surveillants et les gentils travailleurs sociaux. C'est absolument pas ce que je veux dire. Mais à quel moment ce détachement se fait ?
Ça, c'est-à-dire vraiment... entre ce qui est énoncé pour tout le monde, voilà. Qui était le principe des droits des êtres humains, voilà. Et les conditions dans lesquelles tout ça se passe.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, je me souviens par exemple d'une affaire à Fleury-Mérogis où des détenus ont été laissés dans une cellule où le carreau était cassé. Ils ont vécu à 14 degrés, je crois, toute une nuit. Au matin, il y avait quelqu'un qui était dans un état complètement limite. Bon. Mais on se dit, mais c'est pas possible, on pouvait pas mettre quand même des écriteaux disant en dessous de telle température, le corps humain est exposé à un grave danger. Enfin, il y a un moment donné, on se demande comment tout ça est possible. Et je pense que c'est d'ailleurs ce sur quoi Jean-Marie Delarue insiste. Les choses ne peuvent fonctionner qu'à partir du moment où vous restez un être sensible. Sensible à la condition des autres, sensible à ce qu'il peut ressentir. C'est la seule garantie que nous ayons que nos politiques publiques ne se transforment pas en cicatrices sur le corps des gens. Ça doit tout le temps être activé parce que, eh bien, voilà, les gens vivent dans des conditions de travail aussi telles que on va leur demander de faire cette chose ou ils vont le faire parce qu'ils vont penser qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils ne peuvent pas faire autrement ou que cet individu il est vraiment trop insupportable et qu'on ne peut pas continuer avec lui comme ça. Donc on va lui faire vivre des choses à un niveau infra-humain parce qu'on ne le ressent plus comme humain. Et tout cela nécessite ce regard extérieur, justement. S'il n'y a pas de regard extérieur, il y a un surmoi flottant qui tient sur les individus, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils amènent avec eux, leur rapport au travail, leur capacité de résister, de s'opposer. Et ça, c'est parfois trop héroïque ou trop hasardeux. Je pense qu'il faut un contrôleur général qui soit là pour dire, expliquer, montrer où est le déficit, où est la défaillance. Et qu'ensuite, ça engrange aussi du travail de la part des administrations concernées. Il n'y a pas que l'administration pénitentiaire concernée, qui permette aux professionnels de ne pas se séparer de la dimension humaine, si on peut employer un mot aussi lourd. Quoi.
Sans rentrer sur des territoires trop intimes, quelle était la force qui était pour vous mobilisée à passer ce mur chaque jour, ou en tout cas pendant de longs mois, de longues années, pendant plus de 20 ans, sans céder à l'usure et à la fatigue que par ailleurs vous décrivez à nombreuses reprises dans ce livre? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites non, c'est mon chantier?
Mais je pense que c'est vraiment la première phrase de mon livre. C'est-à-dire ce que j'essaye, le premier fragment, c'est la clause morale éthique de ce livre. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de raconter une souffrance, la vôtre ou la mienne, il s'agit d'être là. Et je crois que c'est cette posture qui m'a toujours semblé complètement nécessaire. C'est-à-dire être là, pas au-delà. Pas de façon tonitruante, pas avec des banderoles, des slogans, mais être à cet endroit parce que on ne peut pas être ailleurs, quoi. On accepte cette posture, on l'endosse, on la tient. Et je pense que c'est effectivement comme ça qu'il y a plein de gens qui font leur métier aussi.
Il y a quelque chose de cet ordre-là qui passe dans la langue que vous avez choisie, dans la forme que vous avez choisie, dans ce qui presque parfois se coupe, bref, pour ne pas excéder la présence. Est-ce que vous avez écrit ce livre avec la même idée que celle qui vous tenait pendant les années d'exercice de ce métier ?
Il y a quelque chose de très semblable, oui. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très semblable. Hormis que j'ai eu l'impression que c'est le livre qui m'a tiré en avant, que moi j'étais que l'instrument de ce livre, et du coup la posture d'écriture elle a été possible aussi à cause de ça, Parce qu'il y avait quelque chose de plus fort que ma volonté, plus fort mon... ça paraît un peu artificiel de dire ça, mais je l'ai vraiment éprouvé et ressenti comme ça, que le livre arrivait avant même que je souhaitais qu'il arrive. Quoi. Il était présent et il me mobilisait.
Est-ce que c'était une mobilisation, entre guillemets, confortable ?
Non, pas vraiment. Non, c'était pas une position forcément confortable. Très honnêtement, il y a des moments où j'ai pleuré en écrivant. Mais en même temps, ces larmes-là, elles n'étaient pas exactement des larmes de la capitulation, de l'abandon et de la souffrance. C'était autre chose. Il y avait un dépassement de ça vers l'imaginaire de la littérature, vers ce qu'un livre ouvre, vers ce qu'il est de plus fort que nous.
Précisément l'imaginaire de la littérature, il se trouve que Pier Paolo Pasolini était aussi l'un des poètes que vous aviez convié à notre table cet après-midi, Jeanne Sautière, et voilà, il se trouve que par hasard, c'est aussi le poète que nous avions choisi d'évoquer pendant 5 jours jusqu'à vendredi. Nous avons, grâce à Béatrice Leca, le plan de feuilleter le recueil Dans le cœur d'un enfant. Les poèmes y sont traduits par Luigi Scandella. C'était paru chez Actes Sud en 2000. Ce sont des poèmes que l'on dit de jeunesse. Ils sont lus par Pierre Ancis et le premier s'appelle À une enfant.
Loin, avec ta peau blanchie par les roses, tu es une rose qui vit et ne parle pas. Mais quand dans la poitrine te naîtra une voix. Toi aussi, tu porteras muette ma croix. Muette sur le plancher du grenier, dans l'escalier, sur la terre du potager, dans la poussière des étables. Muette dans la maison, avec les mots étranglés, dans le cœur désormais perdu dans un sentier de silence.
Smanari tazali wal nur suzra Mani rih mani mugih ursul suihya Ino termi orso sta gali ijra orso fi gali ri nani la tafut orso fi gali ri nani la tafut زيف تنيت مماني ريح ماني موجيح ناني قاو إيرات يشكي يرجزن ناني قاو إيرات يشكي يرجزن
Jeanne Sautière, c'est vous qui souhaitiez entendre Indy Zahara, pourquoi ?
Écoutez, je l'ai découvert, je pense que c'est il y a 3 ans de ça, dans un grand concert à la Villette, et depuis, je n'arrête pas de l'écouter. Je trouve qu'il y a un charme, une grâce, quelque chose de complètement ouvert dans sa façon de chanter, et je trouve ça magnifique.
Le titre qu'on écoute, c'est Osoul, et cet extrait du disque Until the Next Journey. Nous avons parlé d'un livre qui s'appelle Fragmentation d'un lieu commun. C'était paru en 2003 aux éditions Verticales dans la collection Minimal. Signalons les 2 autres livres parus aussi aux éditions Verticales et que vous signez, Jeanne Sautière. Il y est question tout de même d'autre chose. Nullipar et Dressing. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ouvrir Merci cette mal. Semaine. Pour écouter cette émission, vous vous rendez sur le site franceculture.fr. Vous pourrez vous abonner au podcast de l'émission qui s'appelle « Pas la peine de crier » ou à celui du poème du jour, celui du Polaroid ou celui de « Je déballe ma bibliothèque ». Pour nous écrire, vous savez très bien faire. Un formulaire fonctionne parfaitement sur la page de l'émission. Merci beaucoup pour vos mots. Aux manettes aujourd'hui, c'était Bruno Gagnère-Fontani. Merci à Céline Geoffroy, Catherine Lemire et Béatrice Leca pour le poème du jour, à Cyril Baer, Inès Duperron et Romain de Becdelief qui pensent et prépare cette émission avec moi, une émission réalisée par Miss Anne-Laure Chanel.